Bonjour Laurie.
Bonjour Christelle.
Merci d'avoir accepté d'être l'invitée de ce podcast Les Permaculturels. Donc pour rappel, c'est un podcast qui interviewe justement les femmes en permaculture et également la question du genre en permaculture. Tout d'abord, je voulais savoir, est-ce que tu pourrais te présenter ?
Oui, alors d'abord, mais merci à toi de l'invitation, j'en suis honorée. Donc, je me présente, Laurie Saint-Fleur, étudiante chercheuse. Donc, je suis candidate à la maîtrise en biologie végétale à l'Institut de recherche en biologie végétale, qui dans le fond est associé à l'Université de Montréal. Donc, voilà, c'est ça ma fonction temps plein en ce moment.
Et par rapport à ton parcours passé, tu viens d'où? Tu veux bien nous dire un petit peu?
Oui, bien sûr. Alors, mon parcours, j'ai fait un baccalauréat en géographie environnementale à l'Université de Montréal. J'ai eu de l'expérience professionnelle diverse en agriculture urbaine et en agriculture biologique aussi. Je me suis vite rendu compte que c'était un coup de cœur, vraiment un coup de foudre en fait, plutôt. Et vraiment, j'adore l'agriculture. J'ai également fait un court programme en agroforesterie que j'ai bien aimé aussi. Mm-hmm. Et donc, je me suis finalement orientée vers une maîtrise qui aborde une thématique de l'agriculture urbaine en ce moment. Mais j'aime aussi les arbres, donc je travaille de temps en temps à la plantation d'arbres. Donc, c'est à peu près ça mon background professionnel et académique.
Très active et sur le terrain.
Oui, j'adore le terrain.
Je voulais commencer, vu que c'est en lien avec la permaculture, est-ce que tu pourrais me dire ce que c'est pour toi la permaculture, ta définition ou...
Oui, donc de ce que j'en sais, c'est qu'il y a différentes définitions, mais pour moi, la permaculture, c'est vraiment, pour la partie d'agriculture, du moins, c'est vraiment de s'inspirer des écosystèmes existants pour créer des systèmes incluant les plantes, mais aussi l'humain. Donc pour moi, c'est vraiment un beau système d'idéologie. Et d'action qui intègre toute vie pour des beaux jardins ou autre type de verdissement. Donc autant le côté humain que le côté vie, écosystème, biologie, etc. Donc c'est ça.
Je voulais d'abord savoir, est-ce que tu te sens permacultrice ou pas forcément, ou comment tu t'identifies par rapport à ça?
Je considère que il y a une partie de ce que j'étudie ou que je fais qui est vraiment en lien avec la permaculture. Donc je ne me considère pas permacultrice parce que j'ai l'impression qu'il y a plusieurs notions qu'il faudrait que j'apprenne encore, mais je suis très ouverte et je considère que ce que je fais, veux pas, ça fait quand même partie de la permaculture, mais je pense quand même que la permaculture, ça peut aller un peu plus loin que ce que je fais, mais que ce que je fais est quand même une bonne base ou qui en fait partie, en tout cas.
Mm-hmm. Je le pense aussi, c'est pour ça que je t'ai invitée. Et justement, je voulais qu'on parle un petit peu de ta maîtrise, parce que de ce que je comprends, t'es dans ce qu'on appelle tout ce qui est compagnonnage, et c'est une des techniques agricoles qui est très utilisée en permaculture.
Oui.
Est-ce que tu veux un petit peu nous en parler et pourquoi tu as choisi ça?
Oui, bien sûr. Alors, la thématique de mon sujet de recherche est le compagnonnage végétal en tant que solution de lutte intégrée pour limiter l'impact des insectes ravageurs chez le chou, du moins chez les brassicacées. Donc, pourquoi j'ai choisi cette thématique? Quand je travaillais en agriculture urbaine ou juste en agriculture, je trouvais ça très intéressant, les îlots de biodiversité qu'on pouvait faire. Et j'aimais beaucoup justement étudier l'impact sur certains insectes ravageurs, comment en remédier en trouvant des solutions qui sont beaucoup plus naturelles, qui limitent l'utilisation de pesticides, qui justement trouvent des solutions qui se rapportent beaucoup plus à imiter des écosystèmes naturels afin de trouver un équilibre. Donc, c'est un peu pour ça que je me suis orientée vers cette thématique. Ouais.
Et alors, ça ressemble à quoi une recherche en lien avec les choux, les ravageurs et le compagnonnage?
Il y a toutes sortes de façons. Moi, c'est une recherche qui est vraiment sur le terrain. Donc, j'ai les privilèges d'utiliser un terrain qui est fermé au public, mais qui a plusieurs hectares de disponibles. Dans mon cas, c'est à peu près 1000 mètres carrés, pas cultivé, mais vraiment au complet. Alors, ce que ça ressemble concrètement, c'est différentes méthodes de compagnonnage qui sont utilisées et qui sont comparées. Donc, il y a des réplicas. Donc, ça fait vraiment beaucoup de systèmes à étudier parce qu'il y a, par chaque système, j'ai 5 systèmes différents.
Okay.
Et il y a 3 réplicas. Donc, je suis rendue avec 5 systèmes au complet à étudier.
Donc, c'est comme 15 petites parcelles.
Exact. Où, ouais.
Et donc, il y a quoi dans chaque parcelle?
Alors, la première parcelle, c'est un contrôle. Donc, il y a juste des cultures de brassicacées. Au final, c'est chou chinois, finalement, que j'étudie. Mm-hmm. J'ai eu quelques problèmes de marmotte. J'ai dû m'adapter. C'est correct, c'est des choses qui arrivent. On est dans l'agriculture urbaine. Mais voilà. Ensuite, j'ai un système de compagnonnage intercalaire. Donc, j'ai les choux et entre rangs, j'ai 3 autres types de plantes. Donc, j'ai l'amarante, des tagettes et c'est un basilic africain qui s'appelle Osimum africanum. C'est que j'ai dû m'adapter, donc ça a un peu changé finalement mes cultures intercalaires. Donc ça, c'est le deuxième système. Okay. J'ai un système qui utilise les mêmes plantes, mais au lieu que ça soit en intercalaire, c'est plutôt entre planches de culture.
Okay.
Donc, j'essaie de voir s'il y a une différence en mettre les cultures plus éloignées de la culture principale, voir s'il y a un lien dans la façon de faire du compagnonnage, puisqu'il y a différentes méthodes de compagnonnage. Mm-hmm. J'ai un troisième système de compagnonnage. En fait, on est rendu au quatrième système, si on inclut le contrôle, mm-hmm. de compagnonnage, qui inclut des cultures pièges. Ça fait en sorte que ce sont des cultures de la même famille que le chou chinois, donc encore dans les brassicacées. Donc là, j'inclus de la moutarde éthiopienne et de la roquette, en fait. Puis ce système-là permettrait de dévier, d'attirer les insectes ravageurs vers ces cultures et de les détourner de la culture principale.
OK.
Et mon dernier système, qui est mon petit chouchou, c'est celui qui contient le plus de biodiversité, c'est un système qui intègre tous ces compagnonnages-là. Donc, j'intègre les cultures pièges, j'intègre les systèmes entre planches, j'intègre les planches de culture intercalaires et j'ai même un petit ajout afin de le rendre plus accessible dans un système d'agriculture urbaine normal où je rajoute des plantes que j'appelle compagne B, c'est-à-dire qu'elles ont probablement une fonction dans la biodiversité, mais je ne les étudie pas spécifiquement. Donc, dans ce système-là, j'intègre des aubergines africaines, aubergines droïssa, j'intègre de l'hibiscus.
Ah, de l'hibiscus.
L'hibiscus sabdariva. Oui, et j'intègre un autre type de basilic. Voilà.
Donc, je comprends l'idée de mettre des choux avec d'autres brassicacées. Donc, mm-hmm. l'idée, c'est que tu supposes que les autres brassicacées seraient attaquées avant tes choux.
Oui.
C'est ça?
Ou qu'ils soient attaqués avant, ou du moins que, puisqu'il y a une plus grande diversité, là j'ai 2 espèces finalement, mais puisque j'ai différentes espèces de brassicacées, que ce soit plus attirant pour les insectes ravageurs, donc de créer une espèce de garde-manger via les cultures pièges.
En fait, est-ce que tu t'attends quand même à ce que les choux de base soient attaqués, mais moins parce qu'ils auraient plus de diversité de nourriture, ce serait ça?
Exact. De au moins diminuer l'impact des insectes ravageurs. On peut aussi parler des insectes ravageurs. Mm-hmm. Moi, mon hypothèse, c'était qu'il y ait probablement soit de l'altise du chou et ou de la pyrite du chou. Mm-hmm. Finalement, ce qui est arrivé sur mon terrain a été la pyrite.
Okay.
Et j'ai été relativement chanceuse parce qu'elle a été présente toute la saison. C'est pas toujours le cas. Et cette fois-ci, elle a été présente toute la saison. Ça m'a aidée parce que sur le terrain, j'ai dû recommencer plusieurs fois. C'est les réalités terrain, c'est des choses qui arrivent.
Uh-huh.
Mais c'est ça. Alors, la pyrite du chou a été mon insecte ravageur cette saison.
Tu dois être la seule personne à dire je suis vraiment chanceuse. Il y en avait beaucoup cet été.
Tout à fait, tout à fait. Je parlais avec les autres agriculteurs, puis ils ne comprenaient pas pourquoi j'espérais qu'elle soit. Effectivement.
Et les autres que tu as choisis, donc amarante, tagette et le basilic, uh-huh. c'est un basilic spécifique? Pourquoi
Osimum
plus celui-là?
Africanum. Donc, je ne sais pas si tu as remarqué, mais c'est quand même des espèces qui ne sont pas nécessairement cultivées, des espèces du terroir.
Uh-huh.
Donc, la raison de ma sélection d'espèces, c'est la particularité de ma maîtrise, c'est que j'intègre une composante qui s'appelle la diversité bioculturelle.
Okay.
Donc, ça comprend non seulement une diversité biologique, mais aussi une diversité culturelle, comme le nom le dit.
Mm-hmm.
Plus spécifiquement, c'est le fait que dans certaines initiatives de verdissement, Il y a certaines communautés marginalisées qui ne sont pas incluses. Donc, le fait d'intégrer ces communautés dans le choix d'espèces, dans l'agriculture ou autre type de verdissement, ça permet justement d'être plus inclusif et justement d'intégrer cette diversité culturelle. Ce que je veux dire dans ce contexte-là, c'est que plusieurs communautés immigrantes, notamment à Montréal, sont marginalisées et ne sont pas nécessairement incluses dans les initiatives de verdissement. Mm-hmm. Parfois oui, parfois non, mais le but, c'est vraiment de les intégrer. D'où pourquoi, dans le cadre de ma recherche, j'ai essayé d'utiliser des espèces qui pourraient être intéressantes pour certaines communautés immigrantes, notamment en utilisant des cultures originaires d'Afrique, mais aussi consommé dans différentes parties des Caraïbes, notamment.
Je trouve l'initiative géniale.
Oui.
Mais est-ce que ça n'a pas mis encore plus de difficultés? Parce que, en tout cas, dans mon imaginaire, si la plante est encore moins originaire d'ici, après on sait que bon, le basilic n'est pas forcément à la base originaire, mais si elle est encore moins adaptée, est-ce que ce n'est pas encore plus compliqué dans ta recherche?
Je suis relativement chanceuse où ce sont des cultures qui peuvent être cultivées annuellement ici. Mm-hmm. Donc, mais je pense que c'est aussi pourquoi je me permets de le faire, parce que si c'était des vivaces, il y aurait peut-être l'enjeu d'intégrer des espèces exotiques envahissantes, mm-hmm. puisque nous sommes en agriculture et dans le cas de notre contexte climatique au Québec, elles sont cultivées que annuellement. Pourquoi j'ai pas peur de savoir si elles peuvent s'adapter ou pas, c'est que c'est des cultures qui sont déjà cultivées, mais peut-être pas autant mises en valeur. Donc, l'amarante est déjà cultivée ici, oui. Certains basiliques africains aussi, notamment Amidou Horticulture ou d'autres types d'initiatives ont l'expérience de cultiver des plantes d'origine africaine. Donc, je ne suis pas la première à le faire, mais je trouvais ça intéressant de l'essayer. Ici, ça n'aurait pas fonctionné, ça aurait aussi été dédonné, en fait. Donc, je trouvais ça intéressant d'expérimenter et de me lancer là-dessus, en fait.
Comment c'est la première fois que j'entends une démarche scientifique qui inclut la diversité culturelle en lien avec les plantes volontairement?
Oui.
Tu connais d'autres personnes qui font ça ou?
Dans la recherche, dans la littérature, j'en ai vu des exemples, mais c'était pas nécessairement des exemples locaux. Donc, ça serait à bonifier. Ça serait à bonifier dans la recherche, mais je veux dire, de plus en plus, il y a cette volonté sociale. Dans la recherche, d'intégrer en fait le volet social dans la recherche sous toutes sortes d'angles, parce que je pense véritablement que la meilleure façon de conserver, de protéger ou de valoriser les initiatives de verdissement, ou ne serait-ce que de protéger nos forêts, c'est d'intégrer les communautés présentes. Donc, je pense que sans ça, on va nulle part en fait. Mm-hmm. Donc,
ouais. Ben, c'est très permaculturel, hein? Tu le pousses à un niveau que... Ouais, je suis surprise parce qu'en fait, j'avais pas réalisé ça, puis j'avais juste jamais pensé. J'ai presque envie de dire honte à moi, tu sais. Mais c'est pas grave, c'est vraiment riche en réflexion.
Je l'ai découvert via ma littérature, en essayant de faire des sélections d'espèces qui pouvaient être un peu originales. Donc, franchement, moi aussi, je ne connaissais pas ce concept-là avant. C'est assez novateur pour moi.
Parce que c'est militant, au fond.
Oui.
En fait, c'est de la recherche scientifique de végétaux militants.
D'une certaine façon, je pense que oui. Ouais.
Et pour revenir très concrètement, même si c'est un axe très important, ce côté diversité culturelle, bon, je sais que tu viens de ramasser les plantes, je sais que tu n'as pas encore fait ton analyse terrain, mais ça serait quoi, vite fait, les premières observations empiriques que tu as pu voir, en sachant très bien que ce n'est pas le final là.
J'ai le sentiment d'être vraiment biaisée avec mon système préféré, donc j'ai pas encore analysé mes données parce que j'aimerais le faire de façon la plus objective possible, mais je pense quand même que le système qui incorpore le plus de biodiversité, donc qui a le plus d'espèces sur le système, le dernier système dont je vous ai parlé, c'est celui qui limiterait le plus l'impact des insectes ravageurs, dans ce cas-ci, la pyrite du chou, sur les choux chinois. J'ai l'impression qu'il y a tellement de diversité que, justement, ça serait plus difficile pour l'insecte ravageur de trouver son hôte, que ce soit parce que les plantes présentes offrent une certaine répulsion ou peut-être une certaine déviation, ou du moins peut-être qu'il y a tellement de nourriture dans ce système-là que l'impact est plus limitée. Je n'y ai pas encore parlé, mais dans le cas de ce compagnonnage-là et de d'autres, il y a la stratégie d'attraction-répulsion que je traduis en fait parce que le vrai terme, c'est « push-pull strategy ».
OK.
et dans le fond, c'est un système qui permet de push, donc de repousser les insectes ravageurs justement via certaines plantes aromatiques qui auraient peut-être justement des... repellent chemicals, donc des
répulsifs chimiques,
exact,
en fait.
Merci.
Comme le basilic, on le voit facilement. Enfin, on sait que l'odeur est faite pour protéger la plante elle-même, donc on peut sous-entendre qu'elle va peut-être répulser pour les autres autour un petit peu.
Tout à fait. Donc, c'est un peu ce principe-là. Et le pull, ce serait justement d'attirer les insectes ravageurs via d'autres plantes. Donc, dans ce cadre-ci, ce serait mes cultures pièges. Donc, tout ce système-là, ce serait mon hypothèse, en fait, de travail, que ce système est le plus efficace pour limiter l'impact des insectes ravageurs. Et pourquoi je parle de limiter l'impact et pas que ce soit absolument zéro impact, c'est que dans le cadre des insectes ravageurs, le fait qu'il y ait certaines parties des plantes qui sont ravagées, donc mangées, ce n'est pas en soi problématique pour l'humain. Ce n'est, tu sais, la consommation de l'aliment, c'est pas nocif. Donc ça va pas nécessairement nuire à la productivité si c'est en petite infestation, un petit ravage. Si c'est un gros ravage, c'est là que ça peut être plus dangereux pour les plants. Ça peut tuer les plants dès leur premier stade, au premier stade des cotylédons, au stade primaire, au stade secondaire, mm-hmm. et nuire à leur productivité. Mais si c'est un plus petit ravage, il y a quand même possibilité de cohabiter avec ces insectes ravageurs s'il y a un certain équilibre. Et je n'ai pas encore parlé, je vais un peu dans toutes, les directions, c'est que certaines plantes auraient aussi le potentiel, mais c'est à voir, là, selon mes recherches, d'attirer des insectes qui sont dits parasites ou prédateurs à ces insectes ravageurs. Donc, certains pollinisateurs ont aussi la fonction de polliniser les plantes, mais pourraient aussi être des insectes prédateurs à ces insectes ravageurs. Fait que c'est vraiment de créer un écosystème qui est un peu plus stable. Non, c'est pas le bon mot.
Équilibré. En tout cas,
ouais. Exact.
En tout cas, moi, c'est ce que j'appelle les insectes auxiliaires.
Mm-hmm. Hein,
je sais pas dans ton vocabulaire. En fait, ça me fait vraiment penser parce que j'ai eu ma ferme, tu sais, en France, en agroécologie, avec des gens assez spécialistes des insectes. Et en fait, ils faisaient des choses comme ça. Alors, pas spécifiquement le compagnonnage que tu nommes. Puis, ils parlaient de tout ça, mais tu sais, je sais pas s'il y a vraiment des données dans ce qu'on faisait. On était par des pratiques un peu de bouche à oreille, des choses quand même que vite fait, de façon empirique, tu as l'impression que ça fonctionne. Mais tu sais, ce n'était pas comme une recherche scientifique. Puis je sais que j'étais étonnée. J'avais découvert, par exemple, que le maïs, il a une chenille qui est ravageuse. Puis il est comme capable d'appeler des guêpes qui mangent cette chenille et qui logent dans les feuilles du maïs.
Oui,
j'étais comme, waouh, c'est quoi toutes ces affaires? Le maïs s'auto-défend. Par contre, quand tu veux aller ramasser ton maïs, t'as des guêpes, donc ça, c'est elles défendent jusqu'au bout, quoi. Donc il y a ces limites là, mais je trouve que le fait d'essayer de tester scientifiquement pour voir justement quelle plante joue vraiment et quelle plante finalement on sait pas trop. Et puis ce que tu parles du compagnonnage très mélangé, ton chouchou, moi je sais que les gens avec qui je travaillais me disaient, mais c'est parce qu'on crée de la confusion pour les insectes ravageurs.
Exact.
Donc, je sais pas. Moi aussi, je dis ça maintenant. Je dis, on crée de la confusion. Mais tu sais, je sais pas si c'est odorant, je sais pas si.
Je pense que tu l'as bien nommé et c'est quand même difficile de le prouver spécifiquement. C'est quoi exactement qui limite les insectes ravageurs? Et dans le cadre de mon étude, on ne le saura pas spécifiquement. Mon but, c'était plus de faire une recherche terrain, justement, qui peut être appliquée aux agriculteurs. Parce que pour moi, tu dis depuis tantôt, pas de façon scientifique, mais pour moi, l'agriculture, c'est de la science. Et c'est de valoriser que l'agriculture peut aussi être fait scientifique. Donc là, on va le faire en convention des normes, en mettant des réplicas, etc., etc. Puis on va faire plaisir à la science. Mais j'aime la rigueur scientifique, je la trouve intéressante aussi. Mais je pense que l'agriculture en soi peut aussi être considérée comme de la science. Et j'aime beaucoup le terme Puis je pense que ça va te parler aussi, démocratiser la science. Ça m'intéresse beaucoup parce que plusieurs personnes font des innovations. Puis je pense que ça serait bien de les mettre en valeur ou de faire des partenariats pour que justement cette initiative soit valorisée parce que ton expérience dans ta ferme agroécologique, c'est de la science en mon sens.
Oui, c'est comme des pistes de compréhension. Exact. Donc tout ensemble, on peut peut-être arriver à comprendre un peu mieux. Parce qu'en fait, si on voulait vraiment un protocole parfaitement rigoureux, ça veut dire qu'il faudrait mettre des plantes en intérieur, sous protection, et qu'on est sûr qu'il n'y a rien d'autre. En fait, c'est essayer d'enlever le maximum d'éléments extérieurs, ça serait ça.
Donc, ça serait en milieu contrôlé. Il y a des expériences qui sont en milieu contrôlé, et puis ça aide à vraiment savoir qu'est-ce qui se passe spécifiquement qui peut-être repousser l'insecte ravageur, sauf que c'est un peu plus difficile de le mettre dans un système appliqué en agriculture. Donc, c'est pour ça que moi, les milieux contrôlés, ça m'interpelle un peu moins. Et donc, je préfère, quoi qu'il y a toutes sortes de désavantages, de faire une expérience scientifique en milieu terrain. Mais c'est ça, je pense que c'est plus ça qui m'intéresse au final, de le faire en milieu concret où on dit « Ah, ben moi aussi, je peux le faire. » Puis voilà.
Ouais, je travaille vraiment avec les écosystèmes ou le système. C'est systémique.
Exact, exact, tout à fait.
Puis alors, très concrètement, je me dis, OK, je mets autant de choses sur ma parcelle, mais ça veut dire que j'ai beaucoup moins de choux que celle où je cultive que du chou. Donc, dans ton idée, ou pas, c'est peut-être pas aller aussi loin, mais si je me replace dans le rôle d'agricultrice, admettons, moi, mon but, c'est quand même de produire. Alors, est-ce que dans cette démarche... finalement, s'il y a beaucoup de plantes, on va mettre moins de choux. Mais est-ce que je vais... Ça veut dire qu'il faut que je récolte aussi les autres, finalement, et que je vende aussi les autres. Ça serait ça un peu ou... Tu comprends un peu mon truc?
Oui, tout à fait. En fait, comment moi je me justifie, c'est que, veux pas, mathématiques, ça reste de l'agriculture urbaine. Mes systèmes sont plus adaptables pour l'agriculture urbaine, où justement, en agriculture urbaine, on peut pas se permettre de faire, de juste cultiver du chou. On aime ça, là, mais
non.
Ce qu'on aime, c'est la diversité. Donc, déjà là, on part sur une bonne base où... alors, moi, j'ai choisi ces espèces-là, mais on pourrait essayer de trouver des espèces qui peuvent être intéressantes pour le garde-manger. Moi, j'ai choisi l'aubergine droit et ça, mais tu peux choisir ton autre aubergine ou ta propre tomate ancestrale, peu importe ce que tu veux. Il y a façon d'interchanger, peut-être même d'utiliser les mêmes familles mais de voir, en fait. Et donc là, on est capable de se créer un système alimentaire, un jardin qui... les cultures nous sont intéressantes, mais en même temps... aide à limiter l'impact des insectes ravageurs. Dans le cas de l'agriculture, on est au courant que ça peut... Je ne pense pas que ça peut s'appliquer à une monoculture, bien évidemment. C'est le contraire de ce que je fais. Mais je pense que le maraîchage qui est plus diversifié. Alors là, on peut essayer de jouer là-dessus. Peut-être que pour certains agriculteurs, vont dire... intercalaire, ça vient moins me parler parce que moi, je préfère vraiment utiliser ma planche de culture. Alors, dans ce cas-là, pas de problème. On utilise une autre planche pour faire du compagnonnage. C'est pour ça que j'aimais bien jouer avec l'idée d'intercalaire ou entre-planche, de voir peut-être s'il y a une différence, peut-être pas, mais de savoir qu'il y a toutes sortes de méthodes de compagnonnage. Moi, j'en ai choisi quelques-unes, mais il y en a bien d'autres. Et la permaculture en offre vraiment beaucoup aussi. Donc, et là, moi, je parle de... je parle seulement de plantes qui sont annuelles, mais on peut jouer avec les vivaces, on peut jouer avec les ligneux. J'adore l'agroforesterie, on peut jouer avec certains arbres, arbustes, des fruitiers. Alors là, on vient vraiment créer un écosystème. Donc, il y a toutes sortes de modèles possibles qui peuvent être autant bénéfiques à limiter l'impact des insectes ravageurs, mais aussi bénéfiques pour se créer un écosystème dans lequel on va se plaire, y gagner et admirer.
Oui, il y a toute la notion aussi de beauté
et
absolument. De bien-être. Ouais, bien sûr. Merci beaucoup. Je voulais passer à la thématique plus genrée. Je me posais... j'ai commencé ce balado parce que je me suis demandé un peu où étaient les femmes en permaculture ou en tout cas en lien de près ou de loin avec la permaculture et les mettre en lumière. En tout cas, moi, j'ai cette sensation qu'on ne les voit pas. Qu'est-ce que tu en penses?
Je suis bien d'accord.
Ouais.
Je suis bien d'accord que ce soit. Oui. Souvent en plus quand on nomme des types de domaines, que ce soit la permaculture ou l'agroforesterie, puis des fois on peut croire que c'est quand même des synonymes, mais on a ou même la phytoremédiation. Je vais pas nommer de nom, mais ce qu'on a comme figure représentative, ce sont des figures mâles. Ce sont des hommes qui sont représentatifs d'une idéologie. Puis je pense que ces hommes en soi, oui, ont fait leur contribution et je valorise leur travail, mais il y a quand même une certaine invisibilité du travail des femmes dans tout ça. Donc oui, je pense qu'il y a un travail de valoriser ce que font les femmes en recherche en permaculture dans ces domaines qui sont connexes. Donc, oui.
Parce que par exemple, dans le centre de recherche où tu es, est-ce qu'il y a beaucoup de femmes? C'est quoi la proportion en fait? Parce que là, on est dans la biologie végétale, on imagine que c'est plus genre homme. Mm-hmm. Enfin, en tout cas, dans ma tête, à la base, science dure, les hommes. C'est quoi là ce que tu vois?
Ça serait au niveau des étudiants, ça serait difficile à voir parce que on est quand même plusieurs étudiants à l'Institut de recherche en biologie végétale et tous ne sont pas présents. Mais j'ai l'impression que c'est bien partagé en termes d'hommes-femmes. Quand on va au niveau des chercheurs, alors là, on va avoir un plus grand clash, une plus grande différence, où la plupart des chercheurs sont des hommes. Vraiment, la grande majorité sont des hommes. Mm-hmm. Une bonne partie est aussi des hommes plus âgés. Mm-hmm. Donc, c'est ça, il y a aussi une différence genrée, mais une différence d'âge aussi dans les chercheurs présents. Mais je pense que tranquillement, quand même, ça change, que les nouveaux chercheurs qui arrivent, il y a de plus en plus de nouvelles chercheuses. Il y a aussi plus de jeunes. Et il faut comprendre aussi que les chercheurs, plusieurs sont là depuis des années.
Oui, c'est ça.
Et certains vont peut-être bientôt aller à la retraite. C'est pas que je veux qu'ils aillent à la retraite. J'apprécie leur travail. C'est juste pour dire que je pense que c'est une dynamique qui peut changer, qui est évolutive. Mais c'est quand même encore une problématique, à mon sens, et une réalité.
Donc, c'est peut-être aussi une histoire de génération où l'accès était moins évident pour les femmes pour mille et une raisons avant. Et de ce que j'entends, c'est qu'aujourd'hui, toi, tu vois un 50-50 à peu près.
Au niveau des étudiants,
oui,
mais vraiment pas au niveau des chercheurs. Alors là, on y est encore.
Mais est-ce qu'on ne peut pas sous-entendre ou pas, justement, que ces étudiantes deviendraient des chercheurs? Est-ce que tu penses qu'on peut les perdre et qu'on perdrait plus de femmes?
C'est une bonne réflexion. C'est que après les études, certains peuvent s'orienter vers toutes sortes de domaines, donc je comprends la logique, mais c'est que les postes de chercheurs, il n'y en a pas une grande quantité qui s'ouvre chaque année. Et donc, on va être pris un peu dans cette dynamique pour un certain moment. Mais j'avoue que je pense qu'en temps et lieu, oui, je pense qu'il va y avoir un meilleur équilibre genré, si je peux m'exprimer ainsi, si on se fie aux étudiants présents actuellement.
Oui, donc peut-être que ça va changer pas à pas. Est-ce que c'est des choses qui se discutent dans les couloirs? Ou pas dans les couloirs, de façon officielle peut-être?
C'est une bonne question parce que j'ai une vision de... Je veux dire, je me tiens avec les mêmes personnes à l'Institut. Je ne peux pas dire que j'ai un regard complet. Mais de mon côté, c'est abordé, c'est parlé. Je ne pourrais pas plus le dire. Je ne sais pas si c'est tabou dans d'autres bureaux, dans d'autres laboratoires, si on peut dire ça comme ça. Mais... Ouais.
En tout cas, de ton côté, moi, des gens parlé. Que tu côtoies, c'est des choses qui sont abordées, puis on en a conscience.
Oui, on est en quand conscience même. Et surtout, moi, ma directrice est une femme, donc c'est sûr que j'ai un regard où je vois directement la diversité, en fait, que ma directrice est une des rares femmes chercheuses à l'Institut de recherche en biologie végétale, oui.
OK, oui, donc en plus, t'es bien tombée, disons.
Ouais. Ouais, c'est
Et je me demandais justement, dans la question du genre, tu as dû faire une recherche biographique, j'imagine, bibliographique de ce qui a été fait pour faire ta maîtrise, c'est ça? Tu fais une. J'imagine que tu as dû choisir beaucoup d'hommes parce que la majorité des articles que tu as trouvés, c'était des articles masculins.
Oui, je crois que oui. Et en même temps, c'est très difficile à dire des fois parce que des fois, on dirait que. Il peut avoir 10 auteurs sur un article, et puis c'est les noms de famille qu'on retient. Donc, personnellement, là, des fois, les noms, je vais plus porter aux noms de famille parce que je veux les retenir. je pense que oui, de mon souvenir, ça reste que la plupart des auteurs devaient être masculins. Et probablement qu'au moins les premiers auteurs devaient être masculins. Probablement que la collaboration dans les auteurs, dans les seconds auteurs, etc., il y avait plus de diversité. Mais en tant que premiers auteurs, c'est plutôt rare. Je crois que je suis tombée sur une auteure féminine. Ouais.
Mm-hmm. Parce que c'est ça, des fois je me suis dit ça serait comme presque artistique de faire une recherche
clairement.
Où tu fais exprès de prendre que des autrices, sauf qu'après au niveau de la recherche comme telle scientifique c'est un peu bête parce que tu peux passer à côté de certaines données quand même de base intéressantes
mais je pense que c'est important de faire l'effort d'aller chercher justement des auteurs féminines, mais c'est pas quelque chose sur lequel on pense tout le temps dans le feu de l'action ou dans mon cadre spécifique, c'était quand même un peu original, ma recherche bibliographique, en voulant intégrer la diversité bioculturelle.
Bien sûr.
Donc, c'est ça, des fois, j'ai l'impression que j'étais peut-être un peu limitée dans le choix. Et en même temps, j'aurais pu trouver un angle pour peut-être intégrer plus d'auteurs féminines. Mais je trouve ça bien intéressant de penser à ça.
Ouais, bah, après, ça fait que tu risques, si tu es déjà dans la diversité culturelle, et en plus, tu te rajoutes la question de genre, tu vas trouver juste un papier, un article, genre bon, bah, on s'appuie là-dessus.
Peut-être, peut-être, mais ça vaut la peine de faire l'effort.
D'essayer.
Ouais.
Mais en gros, c'était un peu tout ça, puis je voulais savoir si tu avais envie d'ajouter quelque chose dont je n'ai pas parlé, que je ne t'ai pas demandé, puis que tu avais envie d'aborder.
Je pense que la seule chose que j'aborderais, c'est que dans le cadre de ma maîtrise, ma façon d'intégrer la diversité bioculturelle, c'était via la littérature existante. Toutefois, si je devais continuer au sein de la recherche, je prendrais le temps d'intégrer une plus grande composante sociale en allant voir des personnes concernées moi-même. Et ça, c'est quelque chose que je n'ai pas fait, mais que je me justifie parce que dans le cadre d'une maîtrise, ça va très, très vite et je n'ai pas vraiment eu le temps de l'intégrer parce que j'avais un été pour faire mon projet et il était trop tard. Hein. Mais si je l'avais peut-être su avant, j'aurais peut-être essayé d'intégrer les gens concernés parce que c'est ça, ils ont une voix, ils ont des connaissances et c'est intéressant de les intégrer. Je pense que ce serait la seule chose que j'aurais à ajouter. Ouais.
OK. Ben, en tout cas, merci beaucoup.
Merci à toi pour l'invitation.